France Musique.
Bonsoir Lionel Esparza.
Bonsoir Lionel, on vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne. France Musique.
Nous recevrons ce soir dans Tapage nocturne Juan Arroyo, compositeur qui explore les carrefours des possibles depuis plusieurs années, en développant notamment un projet d'instruments hybrides dont nous parlerons. Mais comme presque chaque semaine, nous ouvrons notre émission avec notre page phonographique avec une madeleine sonore signée John Zorn. Très influencé par le cinéma, Zorn rendit des hommages successifs au 7e art et notamment à Ennio Morricone à travers un opus discographique baptisé The Big Gun Down qui revisitait les thèmes du maître italien. Cet exercice fut souvent réalisé et souvent critiqué par Morricone lui-même, mais là ce fut plutôt plébiscité. Mes thèmes ont été revisités, non pas d'une manière passive, mais d'une manière active. On peut réellement parler de recréation, de réinvention, s'exclama Morricone en 1988. L'année suivante, Zorn rend hommage au cinéma au sens large dans une pièce instrumentale baptisée For Your Eyes Only, œuvre de collage faite de nombreux fragments musicaux extraits de films. Le compositeur mélange habilement les Looney Tunes comme les thèmes de poursuite de dessins animés avec des thèmes classiques ou de jazz agrémentés d'éléments de tango. Comme nous laisse entendre le titre même de l'œuvre de Zorn, il s'agit d'un véritable bouillon musical, une concentration de clins d'œil du cinéma pour l'oreille.
Thank you.
For Your Eyes Only, une œuvre de John Zorn interprétée par le Tokyo Symphony Orchestra sous la direction de Yuji Takahashi. Nous retrouvons maintenant François Bonnet avec une nouveauté discographique.
France Musique.
Retour du musicien anglais Anthony Child, alias Sir John, à Hawaï pour ses Electronic Recordings from Maui Jungle, volume 2. Retournant dans la jungle de Maui, simplement équipé d'un boucle à musique Easel, de quelques effets et d'un microphone d'ambiance, Child réalise un disque sensible où s'enchevêtrent séquences entêtantes, nappes évaporées et enregistrements du monde sauvage. Il nous embarque ainsi dans une retraite spirituelle où cosmos et primitivisme résonnent avec une électronique minimale qui semble trouver son énergie dans le mana des forêts sans âge de cette île du bout du monde. Nous écoutons le second morceau, Truth is Healing, Anthony Child, Electronic Recordings from Maui Jungle, volume 2. Thank you. écouter un extrait de Anthony Child, Electronic Recordings from Maui Jungle Volume 2, paru aux éditions Migaud.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne.
France Musique.
Juan Arroyo a posé ses valises en Europe il y a plusieurs années pour étudier et puis élaborer une écriture musicale nourrie de quêtes et de curiosités. D'origine péruvienne, il n'a de cesse d'explorer les sonorités complexes issues de sa langue maternelle et de s'intéresser aux échelles provenant des instruments précolombiens. Juan Arroyo est l'invité de ce tapage nocturne. Juan Arroyo, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes impliqué dans le projet Instruments Hybrides, dont on découvrira une œuvre ce soir, interprétée par Jeanne Maisonhaute. En quoi consiste ce projet ?
C'est un projet qui est né déjà il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Projet technologique et artistique. Cette pièce s'inscrit parfaitement dans ma démarche artistique, qui parle d'hybridation bien avant la technologie. Ce projet, qui s'appelle Sainatasca, que c'est une œuvre pour tanacello, c'est-à-dire violoncelle hybride, et c'est une pièce qui parle justement du masque. Sainatasca, en langue quechua, veut dire « homme masqué ». J'ai voulu justement profiter de mes premiers essais sur la technologie de l'hybridation, c'est-à-dire sur le tanacello, pour travailler justement sur les différents types de masquages au niveau sonore.
Alors vous êtes péruvien, on le perçoit un peu dans votre accent. Vous avez été formé en Europe. Quel lien vous tissez avec votre propre culture ?
Alors justement, étant donné que je suis né à Lima, au Pérou, je peux dire qu'en vérité, tout ce qui se passe actuellement dans ma production artistique est fortement lié à mon pays, à la culture qui m'a été inculquée. Mais ça ne reste pas que dans un cliché, on va dire, de la culture péruvienne. Je veux dire par là qu'en fait, la culture péruvienne, c'est une culture métissée. Et comme culture métissée, j'ai eu des influences aussi de la culture française en étant là-bas. J'étais dans une école française pendant 4 ans à Lima. Cet aperçu justement de la culture péruvienne qui regarde vers le monde m'a permis aujourd'hui de développer justement cette idée d'hybridation, de métissage, des rencontres, de créer de la rencontre justement entre le son, entre les cultures, entre les genres musicaux. Donc en fait ces liens sont étroitement liés à ma démarche artistique.
Alors j'ai lu que votre langue maternelle était un élément important de votre démarche de compositeur.
Je parle de langue maternelle plutôt d'un point de vue freudien. C'est-à-dire tous ces sons que j'ai entendus quand j'étais enfant. Le son, par exemple, de la personne qui aiguise un couteau, c'est-à-dire un personnage, par exemple, dans la ville qui passe et qui utilise un instrument avant pour annoncer qu'il arrive, et donc tous les gens qui veulent aiguiser leur couteau descendre pour le faire, ou les sons de la ville. Lima, c'est par exemple une ville très très bruyante, mais très bruyante de musique. La musique est partout. La musique est dans les voitures, dans les taxis, dans les bus, dans les centres commerciaux, dans la rue. Et les gens chantent, les gens sifflent. Donc toutes ces sonorités ont nourri totalement depuis mon enfance en fait tous mes coordonnées, on va dire, artistiques.
Vous avez étudié en France, vous parliez tout à l'heure du lien avec la langue française. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici, plutôt en France qu'en Angleterre ou aux États-Unis ?
Alors, il y a plusieurs faits. Il faut dire qu'à l'époque où je décide de venir en France, il s'agissait à l'époque de la guerre en Irak. Et moi, j'étais poussé par un besoin d'aller à la rencontre d'une société idéale, d'aller me développer artistiquement ailleurs que mon pays. Qui sortait de la guerre, qui sortait de la dictature et de la crise économique. Et à cette époque-là, il y avait 3 options. Il y avait un groupe artistique en Finlande, péruvien, qui était là-bas et qui parlait très bien de la situation des artistes péruviens là-bas. Autre idée, c'était d'aller aux États-Unis. Et une idée très importante, c'était de venir en France. Et à l'époque, le président Chirac a décidé de justement pas rentrer dans la guerre en Irak, ce qui m'a justement poussé dans cette idée de trouver une société idéale.
En 2013, vous avez composé une pièce pour une chorégraphie. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience, de ce lien avec d'autres disciplines ?
En fait, la transdisciplinarité est un résultat de mes recherches sur l'hybridation, pas seulement dans le champ du son, des genres, sinon aussi des disciplines. Et c'était très important pour moi, cette expérience, parce que j'ai intervenu aussi au niveau de la chorégraphie, car les danseurs, ils ont été très flexibles à mes propositions. Et j'ai pu tisser des liens, pas seulement amicaux avec les danseurs, sinon aussi écrire une partition pour les danseurs et travailler l'aspect visuel des musiciens. Et aujourd'hui, je crois que c'est une des choses que je recherche beaucoup à tout niveau. C'est toujours essayer de décapsuler en fait l'univers juste sonore de la musique.
Alors j'ai trouvé dans votre catalogue un mystérieux cycle appelé S. Pourquoi S ?
Alors, le cycle S a commencé avec une pièce qui s'intitule Sicus. Et cette pièce, en fait, m'a révélé, justement, en musique, et concrètement, ce que je voulais faire par la suite, travailler sur l'hybridation du son, de la source, des différentes sources. Et finalement, ce cycle S m'a permis justement d'agrouper toutes les pièces qui sont dans cet esprit plutôt des rencontres, des formations aussi, de l'écoute, c'est-à-dire de pas donner au public forcément le son qu'ils attendent d'un instrument, sinon plutôt travailler la déformation de l'écoute causale, aller justement titiller depuis le début du concert, justement, ce qu'on s'attend.
Alors, on va découvrir dans un instant la pièce que vous allez d'ailleurs nous décrire. Cette pièce pour instrument hybride.
Sainataska, pour violoncelle hybride. Alors, cette pièce, étant donné la première, qui était la première pièce que j'ai composée pour instrument hybride, il faut dire que et mon rapport à elle, c'est presque organique, c'est informel aussi, car j'ai commencé à composer cette pièce au moment où je commençais à dessiner en fait l'instrument. M'ayant inspiré du concept d'Adrian Mamoumani, j'ai été amené à participer de la construction de cet instrument avec Jeanne Maison-Hort, la violoncelliste du Quatuor Tana. Et il faut dire qu'en fait, le résultat, enfin la pièce en soi, elle n'est pas commencée juste de mes recherches musicales, sinon aussi depuis la construction de l'instrument même, qui est assez particulier. Et ensuite, j'ai travaillé la pièce essayant de créer des liens avec une gambarde justement de la forêt amazonienne. Travaillant cette gambarde du point de vue justement des transitoires d'attaque, c'est-à-dire les impacts qui m'ont donné des rythmes. Et aussi les ondulations spectrales de cette gambarde qui ensuite j'ai modélisé pour les faire jouer par le violoncelle. Le jeu des masques, en fait, en Sainatasca, et la superposition de plusieurs éléments issus justement de cette matière de la gambarde, superposés, alternés, toujours comme un personnage qui s'enlève des masques successivement.
Thank you.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
En regardant votre catalogue, j'ai trouvé des œuvres électroacoustiques, purement électroacoustiques au début de votre itinéraire. Et aujourd'hui, on trouve plutôt des œuvres mixtes. Est-ce que ça veut dire que l'électroacoustique, vous l'avez mis de côté ?
Je l'ai mis de côté par simple fait dès que j'ai initié un parcours vers l'hybridation. Peut-être laisser de côté la musique électronique pure ou la musique instrumentale pure, qui encore je continue à écrire, pour m'engager plutôt dans une voie où la mixité est présente à tout niveau. Et la musique électroacoustique, la musique mixte plutôt, représente très bien cela.
êtes en ce moment à la Casa de Velázquez, depuis quelques mois maintenant. Qu'est-ce que vous y faites?
Alors, plutôt, qu'est-ce que je ne fais pas? La Casa de Velázquez, c'est une opportunité merveilleuse pour un artiste de pouvoir se consacrer pleinement à écrire et à se nourrir. La situation à la Casa, elle est juste unique. Et ma rencontre avec les artistes venus des différentes disciplines nourrit tous les jours, en fait, mon propre travail. Les échanges qu'on mène à chaque rencontre, à chaque discussion dans les couloirs, les expositions qui sont faites à la Casa de Velázquez, et la découverte ou redécouverte en tout cas de la culture espagnole aussi, car la culture espagnole faisant partie de mes origines, me fait parler plutôt d'une redécouverte, par le prisme de l'Espagne, de mes origines. La Casa de Velázquez, c'est un point assez crucial dans ma carrière, si on peut dire, car elle me permet actuellement de développer un projet sur le violoncelle hybride, un projet que j'ai esquissé depuis plusieurs mois et que sans ce soutien, sans ces conditions, je serais plutôt dans des contraintes pour l'amener.
Merci beaucoup, en tout cas, Juan Orio, d'être venu nous parler de votre travail. Et merci à Jeanne Maisonhaute d'être venu interpréter l'une de vos œuvres.
Merci.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. La technique était Delphine Baudet, Nicolas Depagraf, Selim Gheribi, attaché de production Soizic Noël, chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et son Al abrévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.